dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là.
Salut à toutes et tous, ça me fait un gros plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour cet enregistrement, je suis retourné à Montpellier et j'en profite pour remercier les camarades du local Le Barricade pour nous avoir ouvert leurs portes. J'y suis allé interviewer Yann. Il a 38 ans et se présente comme un prolétaire qui va au stade et qui écrit. Il est en effet l'animateur principal du média Dialectic Football et je le laisserai le présenter. Si j'ai eu envie de m'intéresser au football dans ce podcast, c'est parce que depuis que je suis petit, je vais de temps en temps au stade. Et comme Yann, j'ai assez vite été dégoûté de la tournure prise par le sport, où, entre autres symptômes, le pognon est devenu roi. À côté de ça, y compris par les médias de gauche critiques, et encore moins par les médias de sport, le football n'est même pas considéré comme un sujet politique. Alors qu'à mon avis, une analyse simple qui consisterait à dire que le capitalisme est une notion abstraite, qu'elle s'incarne dans des individus, des entreprises, des instances ayant des intérêts, et que ces intérêts sont contraires à ceux d'une grande partie de la population, alors avec cet angle, le football devient un sujet politique et un terrain de lutte. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, sachez qu'il n'y aura pas d'épisode en juillet et août, on reviendra en septembre. En attendant, pensez à vous abonner aux réseaux sociaux du podcast, j'y relayerai les différentes mobilisations de cet été. Et enfin, je tiens à remercier Boris pour la lecture des extraits qu'on entendra dans cet épisode. Je m'appelle Sam, je suis un mec cisgenre racisé. On rejoint tout de suite Yann pour l'épisode 12 du podcast Rue des Bons Enfants.
Dans la rue des Bons Enfants, viande à vendre aux plus offrant, l'avenir a Dieu en place et le vieux monde est à la casse.
Je suis de retour à Montpellier pour un nouvel épisode sur un nouveau sujet avec un nouvel invité. Salut Yann.
Salut.
Alors déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Tu es le fondateur du site web Dialectic Football qui se positionne, je cite, « contre le football moderne et son monde. Comme nos lieux de travail ou nos quartiers, le football que nous aimons tant est aussi un terrain de lutte contre le capitalisme. » Je cite encore. Et c'est donc évidemment ce sujet, le football, avec cet angle-là, une critique du football moderne et nos moyens de lutte, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter ?
Voilà, donc Yann, je suis animateur principal, on va dire, du site Dialectic Football, qui est né en décembre 2018, avec la volonté de développer un média avec une ligne éditoriale assez claire, on va dire anticapitaliste. Ce média-là, il est arrivé un peu à la suite d'un premier blog qui était un peu plus large, sur le sport en général, qui s'appelle Les Cahiers d'Oncle Fredo. Après quelques années, le projet Dialectic Football a commencé à mûrir, mais voilà, dans mon avis, un peu sur le site, à l'heure actuelle, il est encore à un stade de développement, il est encore au stade artisanal, quoi. C'est un média qui a encore vocation à se développer, à se collectiviser plus en fait que ce qu'il est pour l'instant, parce que je l'anime principalement seul, avec quelques camarades de passage qui viennent me donner des coups de main pour produire quelques contenus et diversifier aussi un petit peu des fois le fond du site, parce qu'il n'a pas vocation à avoir, même s'il se place sur le champ de l'anticapitalisme, il n'a pas vocation à avoir une ligne super rigide, quoi. Il est ouvert aussi au débat et à une forme de pluralité quand même dans la grande famille, on va dire, anticapitaliste, quoi.
Mais c'était quoi ton ambition au départ quand tu t'es dit on va faire muter les cahiers de l'oncle Fredo en un nouveau média avec une nouvelle identité et tout? C'était quoi la volonté?
Alors déjà, la première volonté, c'était de l'ouvrir, que ce soit plus le média d'une seule personne, comme un blog, mais un site collectif. Ça, c'est sur la forme, le premier média. Et sur le contenu, c'était de se concentrer sur le football aussi.
Okay.
Il y avait une volonté de se concentrer sur le football, d'aller plus loin sur la production de contenu en rapport au football et dans un sens très très large, ça veut dire ce qui se passe sur le terrain, les clubs, mais aussi dans les tribunes, dans les à côté, quoi.
Ok. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton rapport au football? Comment t'en es venu à t'intéresser au football? Peut-être c'est quelque chose de familial. Est-ce que tu as envie de nous parler de ça?
En fait, comme beaucoup de gens, alors j'allais dire qu'ils viennent des milieux populaires, mais au final pas que en France, le football, il a fait partie de ma vie très très vite, en fait. J'ai tout de suite eu un ballon dans les pieds, j'ai joué à ça, et le stade, c'est-à-dire aller au stade, C'est aussi quelque chose qui est arrivé assez vite, hein, de façon familiale, régulièrement les week-ends des matchs à domicile. On allait au stade et forcément on allait au stade en tribune populaire. C'est aussi là que je me suis nourri d'une façon d'aller au stade, c'est-à-dire derrière les buts, debout, pas forcément au cœur du COP ou des groupes de supporters, mais toujours debout et dans la tribune où ça chante le plus et où il y a le plus de ferveur, quoi. Des gamins, en fait, sans avoir de réflexion théorique ou politique sur le football, c'est comme ça que moi je suis entré dans le foot, c'est-à-dire à la fois en y jouant, mais aussi avec tout de suite une, entre guillemets, consommation de stade qui faisait partie de ma vie, quoi.
Ok, donc c'est un rapport sensible qui est différent du fait d'être derrière plutôt que sur les côtés, et mais d'abord plus sensible et pas politique dans un premier temps, quoi.
Bah, déjà, à la base, c'est une question matérielle, en fait. Quand on est derrière les buts, dans les années 90, aujourd'hui, bon, il y a eu peut-être des changements, et puis j'ai pas beaucoup d'éléments statistiques, mais sur le prix des places. Mais en tout cas, moi, à cette époque-là, quand je suis gamin, c'est l'endroit le moins cher, en fait. Il n'y a pas de place, entre guillemets, numérotée. C'est à ce moment-là, on est encore sur des tribunes qui sont intégralement debout. Ça a changé dans les années 90 avec le plan de rénovation des stades. Et je crois ça a été aussi toute une préparation en vue du Mondial 98, de l'accueil du Mondial 98. Donc ça a été après, en gros, ce plan-là de stades qui sont passés intégralement assis, c'est après 1994, si je ne me trompe pas. Donc avant ces tribunes-là, il y a énormément de places debout, en fait, dans les stades en France. Et donc c'est forcément, c'est une autre manière de regarder de vivre le match, en fait.
Est-ce que tu saurais définir à quel moment tu as développé un regard critique? Est-ce que c'est parti d'un moment particulier ou comment tu en es venu à politiser un peu ton regard sur le jeu?
Je sais pas, je pense qu'en fait, à un moment donné, le football, il provoque chez les gens, sans parler que de moi, il provoque chez les gens, en général, il provoque du dégoût, provoque du rejet, à juste titre, en fait, par rapport à tout ce qu'il génère en termes de business et tout ça. Et donc, il y a une image du football, l'image majoritaire, l'image dominante, on va dire, du football, dans la tête des gens, c'est quand même une image de système corrompu qui brasse énormément de fric et qui est déconnecté finalement des gens qui le font vivre à la base, en fait. Et ça, je pense que je l'ai développé assez vite. Après, la question, c'est comment, une fois à partir de là, on produit quelque chose de politique et quel type de résistance, dans quel type de résistance on va s'insérer ou quoi que ce soit. Dialectique football, du coup. Il est né aussi grâce au fait qu'il y a une prise de conscience sur le fait qu'il existe dans le monde du foot, bah malgré la domination quand même du foot business ou du foot capitaliste ou d'un football qui serait complètement libéralisé ou complètement soumis à l'économie de marché. Il existe énormément, une multitude, soit d'histoires, soit de réalités concrètes actuelles qui peuvent être assimilées à des résistances ou à une utilisation du football comme un outil d'émancipation. Et Dialectic Football, du coup, c'est vraiment un média qui a la vocation, ou la volonté en tout cas, de mettre en avant toutes ces expériences de résistance, de lutte émancipatrice, voire même d'alternative, quoi. Parce qu'il existe aussi, à l'intérieur du football, des débuts d'alternative, qui ne sont pas forcément révolutionnaires sur le papier, mais qui ont le mérite de porter en acte, en fait, la critique de ce qu'on appelle le football moderne, en fait.
Ouais, ben justement, ouais, ça c'est un truc qui m'intéressait beaucoup dans le travail que vous portez sur Directive Football, c'est justement de pouvoir me mettre en avance et on va dire des alternatives qui viennent en complément d'une critique, quoi, et qui vient aussi apporter, on va dire, pas des solutions, mais en tout cas des initiatives concrètes, quoi, dans lesquelles ben, les gens peuvent s'investir, quoi. Je te propose qu'on écoute ensemble l'introduction et la conclusion d'un article qui est intitulé Une brève histoire de la révolution libérale du football, écrit par Jérôme Latta et qui est extrait de la revue numéro 5 des Cahiers du football, sortie en janvier 2021.
Elle s'est déroulée à ciel ouvert, au vu de tous, et on peut la documenter sans peine. Mais elle a à peine été commentée et encore moins critiquée. Elle n'a même pas été nommée. La révolution libérale du football européen a pourtant métamorphosé notre sport préféré en une petite trentaine d'années. Une oligarchie crée artificiellement des ultra-riches ou ultra-enrichis qui ont creusé des écarts économiques rédhibitoires, désormais proches de faire définitivement sécession. Un sport financiarisé sans réel garde-fou, désormais livré à des États qui en font le jouet de leur intérêt géopolitique, soumis à une logique économique qui bafoue l'équité sportive. Ces constats font l'unanimité de tous les chercheurs, de toutes les études, de toutes les institutions, qui, tous, affirment également que cette situation est délétère. Peu suspect de bolchevisme, le cabinet Deloitte s'alarme, dans son rapport de janvier 2020, d'une polarisation des revenus plus évidente que jamais, exacerbée au sein des compétitions nationales et internationales, à la fois par les mécanismes de redistribution financière et par les formats de qualification aux compétitions. Avec retard, il invite à éviter une situation dans laquelle les résultats sur le terrain seraient trop déterminés par les ressources financières des clubs, ce qui menacerait l'intégrité et la valeur du sport, et rappelle l'importance de l'imprévisibilité des résultats comme un facteur essentiel de sa valeur à long terme. Le football n'a jamais été aussi prospère, mais cette prospérité est toxique. Sa révolution libérale s'est accomplie sous nos yeux. Et le plus extraordinaire est que personne n'en a rien dit. Le séisme économique de l'épidémie de 2020 semble remettre en cause cette opulence et offre la possibilité d'une sévère correction. Les rapports de force actuels, eux, ne laissent que des raisons de craindre de nouvelles fuites en avant.
Qu'est-ce que ça t'évoque un peu ce constat un peu sur la question économique et libérale du football et quelles critiques tu portes par rapport à ça?
Bah déjà, c'est l'occasion de saluer des médias qui font vraiment un travail sérieux, en l'occurrence les Cahiers du football et Jérôme Latta. Ils dressent un constat qui, pour le coup, on le partage. Peut-être que par contre, sur les conclusions, il va pas, eux, ils ne poussent pas la conclusion plus loin. Mais nous, ce que ça nous évoque, en fait, cet extrait, c'est que le football, mine de rien, il est quand même à l'image. On me dit souvent que c'est un miroir de la société, si tu veux. Donc là, on est clairement dedans. On est un football qui, depuis une trentaine d'années, on peut à peu près dater, hein. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le football moderne, c'est ce football-là qui a été passé à la moulinette du libéralisme, en fait, à partir des années 90, grosso modo, même s'il y avait des si c'était avant, c'était pas ni un football communiste, ni un football c'est un football qui était déjà très très critiquable, mais il est passé d'une économie, on va dire, plus ou moins paternaliste à l'économie de marché, en fait, et à ce que les années 90 ont créé comme condition économique nouvelle, en fait, hein, ce que certains appellent le néolibéralisme, le libéralisme, l'ultralibéralisme, en fait, ce qui est juste un capitalisme qui s'est restructuré en faisant sauter certains verrous, en fait, hein. Et le football, il a complètement été absorbé par ces mutations-là, dont les moteurs ont été Reagan et Thatcher, en fait, globalement, sur le plan politique. Nous, ce que ça nous fait dire, c'est que même si on est super sensible à tout ce que votent les alternatives, les critiques du football, vers nous quoi que ce soit, nous, notre parti pris à Dialectique Football, c'est qu'on ne le changera pas sans révolutionner la société, sans en finir avec le capitalisme. Nous, c'est ça notre conclusion. C'est là-dessus peut-être qu'on se différencie de certains médias, mais bon, après, voilà, on va dire les médias, ils ont aussi des contraintes journalistiques. Ce que nous, on n'a pas, parce que nous, on n'est pas des journalistes, nous, on se définit plus à Dialectique Football comme des prolétaires qui écrivent, en fait. Passionnés de foot et qui écrivent. D'ailleurs, voilà, la plupart des gens qui écrivent dans Dialectique Football, ils ont des boss à côté, en fait. C'est peut-être là-dessus qu'on va avoir une approche un tout petit peu différente et peut-être assumée militante, entre guillemets, avec un anticapitalisme plus franc, on va dire, et plus clair. Après, on peut le dater un peu plus, voilà, un peu plus précisément, mais je pense que dans le dossier des Cahiers du football, ils évoquent ces dates précises qui sont la création de la Première Ligue en Angleterre en 92, qui est le moment fondateur, je dirais, de l'entrée dans l'ère du foot moderne. Et après, la deuxième lame, en fait, de cette qui a fondé tout ce qu'allait être le foot moderne, c'est l'arrêt Bosman en 94 qui a levé les verrous sur les nationalités des joueurs qui permet à l'intérieur de la communauté européenne un club de cumuler des joueurs de plusieurs nationalités. Alors qu'avant l'arrêt Bosman, ils étaient limités à trois joueurs étrangers.
Et sur ce point en particulier, est-ce que tu peux expliquer quelles sont les conséquences de l'arrêt Bosman et en quoi justement ça a renforcé la libéralisation du marché, quoi.
Bah en fait, ce que ça a renforcé, c'est que progressivement, en fait, ça a concentré les meilleurs joueurs dans les meilleurs clubs. Alors qu'avant, ils étaient forcément limités par ces contraintes de nationalité. Alors le problème après, là je prends vraiment des pincettes, parce que une des critiques à cette dérive-là, et là nous on va pas du tout la partager, ce serait de revenir, ce serait une critique un peu souverainiste en fait, et elle est pas, pour nous elle est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'en fait on n'est pas sur un retour un peu nostalgique à ce qu'il y avait avant. Ça veut pas dire qu'il faut pas se battre et pas résister à l'heure actuelle comme le font les supporters ou comme le font certains clubs de football populaire. Mais notre conclusion, c'est que si on veut en finir avec ce football-là, ça passera que par une transformation de la société, un changement de la société, un renversement du capitalisme.
Donc après, au-delà un peu des aspects économiques, du coup, dans la même revue, celle publiée par les Cahiers du football, les rédacteurs et rédactrices parlent du football comme, je cite, « un bastion de la masculinité ». Et on pourrait aussi évoquer l'homophobie qui est très visible, très audible dans les tribunes, et aussi la question des actes racistes. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat du fait qu'il y a aussi d'autres problèmes, indépendamment, en plus des questions économiques? Et si oui, justement, quel lien on pourrait établir entre les aspects économiques et, on va dire, sociaux?
Pas forcément tous les outils pour répondre à ça, hein. Mais encore une fois, même début de réponse que sur la question du capitalisme, en fait, le stade et le foot est un miroir de la société. On est dans une société où globalement le racisme est quand même très présent, l'homophobie est très présente. À partir de là, on ne peut pas attendre du football qu'il en soit complètement nettoyé. Maintenant, nous à Dialectique Football, ce qu'on va plutôt essayer de mettre en avant aussi, même si il y a une tribune qui a été publiée contre l'homophobie dans les stades, une personne qui a contribué au site, qui a rédigé cette tribune, c'est de mettre aussi en avant ce qui se fait contre tout ça, quoi. Contre le racisme, contre l'homophobie. Et d'ailleurs, c'est souvent porté par des supporters antifascistes ou par des clubs, certains clubs antifascistes, pas forcément en France pour le coup, même si en France, il y a les ultras de Bordeaux, les ultramarines de Bordeaux qui ont déjà eu pris des positions claires en tribune avec des messages très clairs contre l'homophobie. Il y a aussi des clubs en Catalogne, en Espagne qui ont dans leur charte des positionnements, voire même dans leur statut de club, des positionnements très très clairs contre l'homophobie, contre le racisme. Donc nous, on aime bien aussi mettre en avant tout ça. Il n'y a pas de fatalité sur ces questions-là dans le football. On préfère mettre en avant les clubs ou les groupes de supporters qui luttent réellement contre ça. On peut le retrouver à Sampdoria, hein, on peut le retrouver au Rayo Vallecano.
Sampdoria, c'est un club allemand.
Sampdoria, c'est un club allemand d'Hambourg. Le Rayo Vallecano, c'est un club de Madrid, un quartier de Madrid, de Vallecas, où les supporters sont clairement identifiés comme défendent un antifascisme très clair, sans concession. Mais là, je les cite eux, c'est un peu, et en plus, les groupes qu'on va citer tout le temps, mais il existe énormément de clubs qui vont lutter contre ça. Après, encore une fois, moi, j'évite de faire des distinctions entre lutte contre le capitalisme et lutte contre les oppressions, qu'elles soient sexistes, homophobes ou racistes. Il faut en finir avec ce système dans sa totalité, dans sa globalité. Et encore une fois, on ne peut pas attendre que ça vienne que du stade. On ne peut pas attendre que des stades, qu'il y ait des changements, ça viendra de la société dans son ensemble.
Jusqu'à maintenant, on a plutôt évoqué, on va dire, les instances de gouvernance du sport, et puis aussi les initiatives. Qu'est-ce que tu pourrais dire du positionnement du gouvernement français, par exemple, sur les questions économiques, les questions sociales, en rapport avec le foot, quoi ?
On va dire que, globalement, il y a de toute façon, une contradiction qui existe entre les gens qui gouvernent le foot, les bourgeois qui gouvernent le football, et l'État derrière, et donc tous les capitalistes privés qui sont autour, qui possèdent les clubs, et les supporters dans leur ensemble. Les supporters qui sont ceux qui ont les moyens d'aller au stade, même ceux qui n'ont plus les moyens d'aller au stade, même si on est loin d'être au niveau des prix pratiqués en Angleterre ou dans d'autres pays, en tout cas en France. Donc déjà, on est déjà là-dessus, il n'y a pas une grande famille du football où il y aurait une unité entre tout ce monde-là. Je pense que déjà, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'assumer, qu'il faut essayer de nommer, qu'il faut essayer de pointer du doigt. C'est le fait que les gens qui gouvernent le football, qui le dirigent, qui se font du blé avec, ou qui permettent à des capitalistes de s'enrichir dessus, en tout cas de prospérer, on va dire. En tout cas, il y a des gens qui le possèdent et qui le contrôlent. Et bien, ces gens-là, en fait, ce n'est pas nos amis, c'est globalement nos adversaires, parce que c'est ce qu'ils sont en train de. Ceux qui contribuent à emmener le football là où ils sont en train de l'emmener, ils ne nous emmènent pas avec eux, en fait. Et donc, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il accompagne clairement, le gouvernement, en tout cas l'État français, il accompagne clairement là où les capitalistes en fait sont en train d'emmener le football, quoi. Et c'est un football qui est globalement de plus en plus déconnecté, j'allais dire du peuple au sens très très large, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose, en tout cas des classes populaires, et qui est de plus en plus dirigé vers la recherche de revenus, que ce soit au niveau du marketing, au niveau des droits télé, et donc un football qui est pensé pour ces revenus-là, ces rentrées-là d'argent, et pas pour les supporters de base, qui étaient là avant que ces patrons et propriétaires de clubs arrivent et qui seront là après, quoi. Donc, il y a quand même un truc, quand même, il y a quand même un truc où on a cette lutte-là qui est pas toujours visible et pas toujours ouverte, encore que on l'a vu à une époque à Bordeaux quand un fonds d'investissement américain avait racheté le club. On l'a vu là récemment avec le Red Star, avec la volonté d'un fonds d'investissement encore américain aussi de le racheter le club, avec les luttes de supporters qui s'y opposent. Il y a un début de lutte contre cette. Il y a un sentiment de dépossession qui est là. Et parfois, il est de plus en plus fort quand la propriété du club passe sous pavillon d'un fonds d'investissement très très éloigné et très très éloigné à la fois du club géographiquement, mais surtout très très éloigné du club historiquement et au niveau aussi des valeurs, quoi. Des valeurs en tout cas portées par les supporters. Parce qu'il n'y a pas de clubs qui sont gérés par les supporters en France au niveau dans les 3 ou dans les 4 premières divisions, voire même dans les 5 premières divisions. Contrairement à l'Espagne, contrairement à l'Italie, voire même à l'Angleterre.
Et sur un autre sujet, la question du traitement du football de haut niveau par les grands médias. Comment tu qualifierais ce traitement médiatique?
Il faudrait voir qu'en France, il y a une particularité, c'est qu'on a un média unique, en fait, quasiment au niveau du papier, déjà, qui est l'équipe. Qui qu'en plus enfin, enchaîne les plans sociaux à destination de en interne, hein, dans son groupe, dans l'entreprise. Donc c'est un média super particulier, avec des journalistes un peu stars qui vont être un peu des éditorialistes en fait. Bon, là, qui des fois ils sortent des articles où ils s'offusquent tout à coup du fait qu'il y aurait du foot business, mais alors que à longueur de temps ils passent leur temps à servir un peu d'éponge à ça, de serpillière à ce foot business-là dont ils font la promotion, dont ils font un peu l'éloge. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui seront complètement en désaccord avec ça, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est un média qui accompagne complètement en fait le football là où il va, et qui en plus cette saison, ils se sont pas contentés de ça, ils se sont ça c'est un autre angle de critique que je vais avoir vis-à-vis de l'équipe, ils se sont mis un peu en porte-drapeau du combat contre les supporters en fait. Cette saison, ils ont complètement participé, soit dans le média papier, à travers certains éditos, soit sur la chaîne qu'ils ont, la chaîne L'Équipe, dans les émissions quotidiennes. Ils ont vraiment contribué à hystériser à mort le débat pour réprimer les supporters, en fait, à partir de quelques événements, quelques débordements. Alors, je dis pas que les débordements, ils étaient cool ou quoi que ce soit, hein, je suis pas du tout en train de. Mais à partir de ces débordements-là, soit le match à Nice, en fait, où les supporters sont rentrés, ont échangé quelques coups avec les joueurs de Marseille, soit à Lyon, où Dimitri Payet avait reçu une bouteille en plastique dans l'oreille, soit d'autres petits événements, avec des fumigènes ou quoi que ce soit. Ils se sont servis de ces quelques débordements-là, parce que mine de rien, sur l'échelle des. Je sais pas combien il y a 38 journées, 10 matchs, donc il y a 380 matchs dans une saison de Ligue 1, on est à une dizaine de débordements. Qui sont en plus d'une, on va dire, au niveau de gravité, qui ne sont pas tous sur le même niveau de gravité. Et ils se sont servis de ces 10 événements-là, de ces 10 débordements-là, pour alimenter tout un débat très à charge contre les supporters, pour réprimer, pour durcir le ton, en fait, au niveau pénal, contre les supporters qui étaient mis en cause. Et donc, Ils ont joué un rôle qui dépasse le cadre. Enfin, après, ils ont le droit. Moi, je suis pas pour la neutralité, hein. Il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'elle n'est pas assumée dans leur cas, quoi. Ils se présentent comme objectif. Mais ils ont joué un rôle, ouais, voilà, très offensif contre les supporters. Et qui est finalement conforme avec l'aseptisation en fait, des tribunes que prône le foot business, qui est vraiment adéquate en fait, dans la volonté de comment le foot moderne veut commercialiser son produit en fait. Et on est en plein dedans. Et eux, ils sont quelque part aussi un élément de ce football-là, quoi. Ça s'auto-alimente, quoi. Ils n'ont pas de contradicteurs, quasiment pas. Les cahiers du football font partie des contradicteurs, mais en fait, c'est pas du tout, ils n'ont pas du tout la même force de frappe. Ils n'ont pas la même quotidienneté, ils n'ont pas. D'ailleurs, Jérôme Latta, que tu as cité tout à l'heure, il écrit aussi pour Le Monde, et c'est un des rares. Il y en a d'autres, hein, on a pu trouver, il y a quelques. On peut trouver quelques articles par-ci, par-là, qui ne vont pas du tout dans le sens de ce vent-là, hystérique contre les supporters. Mais le problème, c'est que on n'est pas, ça pèse pas lourd en fait par rapport à la force de frappe de l'équipe qui a un monopole en fait un monopole de la du traitement du football, du sport en général, mais presque du football, avec un peu un autre média et qui est pas forcément plus recommandable qui est RMC au niveau radio, mais avec des gens comme Daniel Riolo ou quoi que ce soit. Mais voilà, on est un peu cerné par les réactionnaires, quoi, on va dire entre guillemets, quoi. Et quoi, effectivement, développer aussi nos propres médias ou soutenir ceux qui existent déjà et diffuser un peu plus la lecture que vont avoir les cahiers du football de la situation. Elle est enrichissante, elle est pas, elle est accessible. C'est des choses qui sont vraiment importante, et puis elle permettra à terme, je pense, à beaucoup de gens d'être aussi protagonistes en fait de ce football-là. C'est qu'on a besoin d'être des protagonistes en fait et pas d'être réduit au rang de vulgaires clients. On a notre mot à dire. Mais c'est un combat, avoir notre mot à dire, c'est un combat à mener en fait. Il y a un combat à mener par rapport à eux. Et je pense que de la même manière qu'on va aller en manif pour lutter contre nos patrons, pour lutter contre des réformes, des privatisations, la casse des retraites ou quoi que ce soit, on doit lutter pour défendre le football qu'on veut et lutter contre celui qu'on veut pas, quoi.
Bon, alors justement, ce que tu viens de dire, ça va me permettre de faire la transition sur le thème d'après, sur la question du que faire. Donc si on part un peu d'un double constat, qui est d'une part le constat qu'on vient de faire, celui d'un football professionnel qui incarne les pires, j'ai écrit travers, mais ce n'est pas des travers, c'est qui incarne les pires aspects d'un système néolibéral et autoritaire. Et d'autre part, l'autre constat, c'est celui qu'on est nombreux, nombreuses à être passionnés, à être attaché à ce sport, bah, la question qui vient, c'est quoi faire? Et du coup, bah, là, tu parlais du fait d'être protagoniste. Il y avait un mot qui me venait à l'esprit, c'est un peu le truc de fatalisme ou d'impuissance face au rouleau compresseur qu'on vient de décrire. Et aussi, si on s'imagine qu'on est un peu seul devant son écran, dans son canapé, et que en fait, on peut que se contenter de lire et du coup de constater. Enfin, voilà, la question qui me vient, c'est que faire, quoi? Et donc pour préparer l'enregistrement, tu m'avais parlé de l'émergence du calcio popolare, d'un football populaire, en opposition au football moderne en Italie. Alors je vais lire un extrait d'un article traduit de l'italien de Giuseppe Dopone Ranieri, qui a été publié sur Directive Football.
Même dans une période comme celle que nous vivons actuellement, où nous assistons en Italie depuis au moins 20 ans au démantèlement inexorable de l'État-providence, il est malgré tout très difficile de créer une opposition de classe concrète à même de descendre dans la rue et de répondre coup pour coup au capital. Il ne reste plus qu'à regarder avec un mélange d'admiration et d'envie ce qui se passe de l'autre côté des Alpes, en France. Au contraire, le football peut fournir un exemple de mobilisation populaire venue d'en bas, précisément à travers l'explosion du mouvement du calcio popolare, qui, bien que sous une forme pré-politique, représente un phénomène de réappropriation et à sa manière de lutte de classe contre des présidents patrons qui n'ont que faire du peuple et ne pensent qu'à faire gonfler leurs profits, qui sont persuadés d'avoir raison et n'acceptent aucune critique. Paradoxalement, quoique pas tant que ça, la création et le développement d'équipes de calcio popolare et plus généralement de tout le sport populaire est probablement ce qui apporte le plus de satisfaction à la réalité antagoniste en Italie. Bien que, il faut le reconnaître, toutes les équipes n'ont pas le même degré d'implication politique. Certaines sont même quasi apolitiques.
Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi le football populaire, le calcio popolare en Italie? Qu'est-ce que c'est et c'est quoi l'intention qu'il y a derrière ces initiatives?
Alors, faut savoir qu'en Italie, le calcio popolare, il a pas toujours la même source, mais on va dire qu'il a vraiment commencé à se développer à partir des années 2010 en Italie. Donc on est quand même à quelque chose qui correspond aussi hein, au moment où on a commencé à voir émerger un peu partout, enfin, même si les critiques ont toujours existé hein, sur le libéralisme, quoi que ce soit, mais ils ont commencé à prendre un peu plus de forme. Donc c'est-à-dire quand même, il a fallu attendre entre le début des années 90, la libéralisation du football, quelques années avant que quelque chose prenne forme, en fait, de façon concrète pour s'y opposer. Et en Italie, c'est le principal, un des principaux. Alors, parce que comme il y a plusieurs sources, on va partir des ultras, en fait, parce qu'il y a un lien entre certains ultras et le développement de certains clubs, en fait, de certains premiers clubs, notamment le club de Lebowski, le Centro Storico Lebowski à Florence. Donc, ce club-là, il a été créé en partie par des gens qui étaient des anciens ultras de la Fiorentina, mais pas que. Et dans une période globale où la répression vis-à-vis des ultras en Italie, elle était très forte, voire insupportable. La répression des ultras en Italie, elle a vraiment pris un tournant avec les interdictions de stades très très longues.
Au début des années 2010, à peu près par là ?
Non, même avant. Ce qui s'est passé vers les années 2010, en fait, autour des années 2010, c'est la création de la carte du supporter. Alors, je ne dis pas que pour la création du centro du Lebowski, en fait, ça a joué un rôle. Mais il y a certains clubs populaires qui ont été créés en Italie. Les fondateurs de ces clubs-là évoquent la mise en place de la carte du supporter comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Par exemple, à Cosenza, où il y a un club qui a été créé, pareil, en 2011 ou 2012, désolé si je n'ai pas les bonnes dates, hein, mais par des supporters du club de Cosenza, en fait, qui devait jouer soit peut-être en série B à l'époque, où la mise en place de la carte du supporter, qui était donc quelque chose que tu étais obligé de te procurer pour pouvoir accéder au stade, donc il y avait quelque chose de nominatif, enfin bon, c'est un vrai recul en termes des droits, des libertés pour les supporters, voire même c'est avec à cause de cette carte-là, on pouvait t'empêcher du coup d'aller au stade si tu ne l'as pas. Ça a été un peu la goutte d'eau pour certains, et donc ça a aussi participé à emmener plein de supporters vers les petites divisions, en fait, en Italie, vers les divisions amateurs, en fait, où pas les mêmes règles, en fait, il n'y a pas la carte du supporter. Même si depuis, elle a été supprimée, hein, faut avoir ça en tête, mais en tout cas, à cette époque-là, on est vraiment à un niveau de traitement ultra-liberticide, en fait, des tribunes en Italie, et donc il y a cette volonté de plusieurs ultras de retrouver un autre football, en fait, que ce football-là, que le calcio. En plus, il y a la question de la répression, mais il y a aussi la question de la corruption, des scandales, des matchs truqués. Il y a énormément de choses en fait qui dégoûtent en fait les supporters. Par exemple, à Bari, il y a un club populaire qui a été créé, et le club populaire qui a été créé à Bari, il y a beaucoup d'ultras du club de Bari en fait qui l'ont rejoint parce que à ce moment-là, il y avait des gens de la tribune en fait, alors que Bari était déjà relégué. Je parle de ça, on est en 2011-2012, hein, qui pariaient sur les défaites de leur club en fait, et donc qui poussaient en fait les joueurs à perdre, enfin tout un truc vraiment, enfin complètement honteux en fait. Quand on sait l'attachement qu'ont avoir les supporters par rapport à leur club, en fait, qui fait partie de leur vie, de leur quotidien, ça a été aussi l'occasion pour un certain nombre de gens de dire ok, en fait, le football qu'on veut, va falloir peut-être qu'on participe à le créer parce que ce football-là, il est juste, on n'en peut plus, on n'en veut plus en fait. C'est sans jeu de mots, il est insupportable en fait, en gros quoi. Tu vois. Ça a contribué. Ça, c'est des clubs de calcio popolare, donc il y a une partie des gens qui viennent des tribunes, quand même, il faut l'avoir en tête. Après, il y a aussi une partie de gens qui viennent un peu des milieux associatifs de quartier. La création d'un club de foot, en fait, elle intervient comme un élément à l'intérieur d'une vie de quartier associative, pour proposer des accès gratuits au foot aux gamins, ce genre de choses, dans des quartiers qui sont un peu délaissés. Là, ça rejoint un petit peu toute l'analyse que fait Giuseppe sur la question du démantèlement de l'État-providence, en fait. Il y a des quartiers abandonnés, à l'intérieur de ces quartiers, le club de foot va être aussi une proposition associative, en fait, sociale, d'intervention dans la vie du quartier quotidienne. à travers la proposition d'activités sportives, pas que du foot, il y a beaucoup de clubs aussi de boxe hein, populaires, des fois de basket, des fois d'autres sports, et pour les habitants du quartier, notamment les gamins aussi. Et après, ces structures-là, ces structures sportives hein, à la base, vont aussi être des outils de lutte, de revendication dans le quartier, voire même de solidarité concrète. On l'a vu pendant le Covid, par exemple, les clubs à Padoue, le club San Precario, le club San Lorenzo, le club de Quarto Grade aussi à côté de Naples. C'est des clubs qui, pendant la pandémie, pendant le confinement, ont mis en place des distributions de nourriture gratuites pour les gens du quartier ou ce genre de choses. Ils ont dépassé clairement la question du simple sport, quoi. Ils n'en restent pas là. Et un autre élément important qu'on a vu grâce au Calcio Populares, début des années 2010, ça a été sur la question de l'accueil des réfugiés, où la question du football, à ce moment-là, a été clairement un outil pour l'accueil des réfugiés, pour la solidarité, tout simplement. Et beaucoup de clubs, plusieurs clubs en tout cas, majeurs, hein, à Milan, à Naples et à Rome, mais aussi ailleurs, hein, directement à Lampedusa ou ce genre de choses, ont servi directement à la solidarité vis-à-vis des réfugiés qui arrivaient sur les côtes italiennes, en fait.
Et ça s'est déroulé comment ?
Bah, déjà, ils les ont accueillis. Ils ont organisé des compétitions. Et après, ça a été un tout petit peu plus loin quand il y a eu un mouvement même qui a été lancé par certains clubs. Parce qu'à ce moment-là, les statuts de la fédération italienne ne permettaient pas aux joueurs qui n'avaient pas le titre de séjour adéquat de participer aux compétitions. Donc il y a eu tout un mouvement qui a été mis en place, auquel beaucoup de clubs se sont mêlés. Mouvement de solidarité pour permettre à ces réfugiés de participer aux compétitions. Et après, bah, des fois, c'est tout basique, hein, à accueillir les gens, à leur permettre de participer à des activités avec d'autres, d'avoir une vie quotidienne, de les aider aussi dans leurs démarches administratives. Voilà. Ça a été quelque chose de très basique. Mais ça, le mouvement du Calcio Popolare, il a été super actif en fait, sur l'accueil des réfugiés à partir des années 2010, 2011, 2012. Et encore aujourd'hui, hein, il y a encore des clubs qui sont même inscrits dans certaines divisions, des plus basses divisions du football italien, mais qui sont des clubs composés majoritairement de réfugiés, comme le Sant'Andreas à Milan. Ça fait partie de ces clubs-là, quoi.
Alors peut-être que sur les deux... La réponse est peut-être différente en fonction des deux origines, on va dire, que tu décris sur les clubs de Calcio Popolare. Comment est-ce qu'ils se différencient en termes d'intention ou en termes d'organisation interne ou par rapport à des clubs de sport, on va dire, traditionnels, quoi ?
Comme dit très bien Giuseppe, il y a des clubs, des fois, qui sont complètement... qui se revendiquent du Calcio Popolare, mais qui sont assez neutres politiquement, finalement. Hein, mais ce qui va... Ce qui va les réunir, ça va justement être la critique du football moderne, la répression, le business qui est drainé par le football moderne, le football business. Et ce qui va les réunir, ça va être un fonctionnement interne aussi. C'est-à-dire, c'est des clubs qui sont gérés directement par leurs supporters en fait, et par leurs membres. Et c'est là que le club de Calcio Popolare, qui est globalement apolitique, et celui qui est très 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 militant, proche des milieux anarchistes, par exemple, ou antifascistes, ou communistes, vont se regrouper sur une manière de dire qu'en fait, le club, il appartient à ses membres. Et c'est là qu'il y a une différence, en fait, avec le football traditionnel qui est contrôlé par des dirigeants, en fait. C'est là que c'est une alternative aussi. C'est-à-dire les gens, et qu'on revient à cette idée de protagoniste, c'est-à-dire les gens sont protagonistes de leur club et l'emmènent là, ils ont envie de l'emmener, en fait. Avec quelque chose, quand même, qui est important à souligner chez certains clubs de Calcio Popolare, c'est qu'ils ne mettent pas de côté la dimension compétitive. C'est-à-dire là, il y a des clubs qui sont en train de se rapprocher progressivement au fil des saisons, des 5e division, certains sont en 6e division, 5e division. Et il y en a un qui est en série D, donc le 4e niveau maintenant du football italien, qui est le club de Fasano, qui est un club d'actionnariat populaire, donc qui est géré directement par ses supporters aussi. Donc il y a ce modèle-là, il a aussi vocation à se confronter aux autres clubs en fait, sur le terrain.
Alors, pour les équipes qui cherchent à monter en division, mais ou de façon plus générale sur les autres formes de mobilisation, quelles limites tu identifierais ? Ce serait quoi, d'après toi ? Elles sont liées à quoi ? Aux aspects économiques, par exemple ?
Bah, je pense oui, ce sera principalement économique, et principalement après aussi en termes de valeurs, je pense, hein, qu'il faut réussir à conjuguer ses propres valeurs avec celles qui sont imposées un peu par le... faire ce football professionnel. Hein. Donc là-dessus, je pense que c'est trop de la politique fiction pour l'instant pour imaginer ce que ça pourrait donner. Mais voilà, il faut voir. Il y a le club, un club qui fonctionne à peu près sur les mêmes modèles, qui est le club d'Omonia. En anglais, on l'appelle le People's Athletic Club Omonia de Nicosie à Chypre, qui est arrivé en deuxième division en 3-4 ans. Donc lui, pour l'instant, il arrive à maintenir son modèle, en fait, qui est un modèle de club géré par ses propres supporters, un peu sur le modèle, le club modèle, en fait, la matrice un petit peu de tous ces clubs qu'on poussait un petit peu après. C'est le club de Manchester, le FC United de Manchester. Il a servi de modèle à beaucoup de. En tout cas, il est utilisé comme modèle par beaucoup de clubs d'actionnariat populaire ou en tout cas de clubs de football populaire.
Par modèle, tu veux dire en termes d'organisation interne et de.
En termes à la fois de valeur, je dirais,
Ok.
c'est-à-dire un club qui a été construit par les supporters pour les supporters. Comme ils disent à Manchester, c'est Our Club, Our Rules, voilà, notre club, nos règles, parce que oui, ils se sont fait complètement. Leur club ne leur appartenait pas déjà, hein, mais ils se sont fait encore plus déposséder avec l'arrivée des milliardaires à la famille Glazer. Et à ce moment-là, leur stratégie, ça a été d'en recréer. Hein. Ils ont créé quelque chose, en fait. Ils ont créé un, je dirais un modèle, une première, en fait, qui a été reprise après à d'autres endroits, par exemple en Espagne, un peu en Italie. Pas forcément dans les mêmes contextes. Ça a été en Espagne, ça a été souvent
Club fait
le
faillite,
club fait
ouais.
faillite et on en recrée un, quoi. Ça a été, on en recrée un sur nos modalités à nous de supporters, de sociaux, quoi que ce soit, avec le modèle un socio, une voix. Ça veut dire on ne permet pas à quelqu'un de capitaliser à l'intérieur du club et de posséder plus de parts qu'une seule. Donc comme ça, on crée un fonctionnement à l'intérieur du club qui est un fonctionnement démocratique. Donc pour moi, je n'assimile pas ça à un modèle révolutionnaire. Je pense que c'est un modèle démocratique qui s'oppose au fonctionnement où il y a des propriétaires qui prennent les décisions pour tout le monde. Mais c'est très intéressant comme modèle alternatif en fait à ce qui existe. Mais là, on est dans du capitalisme éthique en fait, si tu veux, tu vois, si on veut vraiment être puriste, tu vois, et avec un c'est comme une scope, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, mais ça va pas. C'est pour l'instant, c'est aussi qui s'adapte à, si tu veux, au système dans lequel ils sont. Quelque part, ils sont beaucoup plus en phase avec la réalité que ce que moi je peux porter comme idéal footballistique, quoi, tu vois. Ils sont obligés de le faire tourner, leur club. Et il y a des exigences économiques. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va chercher des sponsors. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de partenaires qui les sponsorisent ou qui leur remettent un peu de thunes, qui vont être des commerces locaux, des petites entreprises locales, si tu veux. Alors, où t'arrêtes après ton éthique par rapport au partenariat que tu crées avec des petits entrepreneurs locaux? Souvent, les clubs de football populaire, ils excluent, par exemple, d'être sponsorisés par des entreprises de paris sportifs. Tu vois? Voilà. Parce qu'ils estiment que leur éthique leur interdit d'être soutenus par des entreprises qui, finalement, créent de la dépendance au sein du prolétariat, de la dépendance au jeu, de l'appauvrissement, de l'endettement ou quoi que ce soit. Ça, c'est un peu le truc qui va faire consensus. Mais sinon, à part ça, si tu veux, ils vont aller chercher des partenariats qui vont pouvoir leur donner un peu de thunes pour pouvoir boucler les saisons, voire payer des joueurs, parce que quand tu arrives en troisième division espagnole, il faut payer les joueurs en fait. En France, on en est très très loin. On n'a pas du tout, parce qu'on n'a pas non plus la même culture des socios en fait qui a pu exister en Espagne, ou la culture très communautaire qui se crée autour des clubs en Angleterre, voire un peu en Italie encore différemment, mais la question un peu de sentiment d'appartenance en fait à un quartier qui permet de construire autour de ce commun-là un club qui va nous représenter et pour lequel on va donner de notre temps, de notre énergie, qu'on va défendre en fait, qu'on va sentir aussi comme étant le nôtre. En France, on a l'impression, les supporters sentiment que c'est leur club, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même beaucoup de verrous que les supporters n'ont pas encore réussi à faire sauter, quoi. Pour se l'approprier vraiment, il n'y a pas forcément la volonté d'ailleurs de dire c'est notre club. Quand les dirigeants vont prendre des directions qui ne vont pas aller dans le sens des supporters, les supporters vont se révolter en fait. Mais il n'y a pas encore la. L'imagination ne pousse pas encore les supporters à essayer de se dire, tiens, est-ce que ce ne pourrait pas être nous qui reprenons le club en fait? Bon, parce que ça demande aussi de récolter des fonds, de récolter de l'argent, et arriver à un certain niveau où est le club, c'est pour l'instant probablement pas faisable en fait, tout simplement.
Là, du coup, j'ai l'impression qu'on a un peu dessiné, un peu, je sais pas, schématiquement, peut-être un peu deux façons de se mobiliser, on va dire, la création de clubs alternatifs avec de nouvelles modalités de fonctionnement, mettre en place des valeurs spécifiques, Et puis après, il y a peut-être aussi dans les clubs qui sont déjà institués par les groupes de supporters, donc se mobiliser en contestation. Est-ce que tu es d'accord un peu avec ce truc un peu dichotomique de deux façons de faire? Et sinon, et en dehors de ça, est-ce que tu aurais d'autres idées en tête de façon de s'impliquer, de se mobiliser, soit sur des façons potentielles que tu t'imaginerais, ou bien sur des choses qui ont déjà existé, quoi?
Non, je pense que c'est les deux principales parce que c'est les deux principaux espaces en fait où on peut être protagoniste en fait. Hein, je pense après, si il y a un autre espace auquel je donne moins d'importance que les tribunes ou la création de clubs ou la participation à des clubs auto-organisés en fait. Le troisième élément que je mettrai pas sur un pied d'égalité, ça va être un peu l'élément d'outils un peu médiatiques en fait sur travailler un peu à développer une culture aussi. De football populaire, hein. C'est ce que font très très bien d'ailleurs certains clubs, hein, qui ont leurs propres médias, leurs propres fanzines ou certains groupes de supporters aussi, hein. C'est-à-dire que ça, on n'en parle peut-être pas assez, mais les groupes de supporters, ils se contentent pas en France, ils se contentent pas de juste d'animer la tribune ou juste de contester la direction. Il y a quand même il y a certains clubs, certains groupes de supporters qui vont avoir des publications, qui vont être très actifs, qui vont avoir des médias pour diffuser ce qu'ils portent, des fanzines, qui vont mettre en place des actions de solidarité. Soit un peu caritatif, soit directement la solidarité concrète, comme il y a pu avoir avec les personnels soignants pendant le Covid, ou des fois des soutiens. Ça, c'est plus rare, mais ça a pu arriver avec certaines grèves, qu'ont pu soutenir les supporters du Red Star, avec des banderoles de soutien à certaines grèves. Bon, voilà, ça va varier selon le niveau aussi de politisation des tribunes en France. Faut le dire, le mouvement ultra en France, qui est quand même ce qui est la majeure partie qui anime les tribunes en France, hein. C'est des groupes ultras. Ils sont quand même issus directement de la influencés directement par ce qui s'est passé par la naissance du mouvement et le développement et les évolutions qu'a connu le mouvement ultra, qui est né un peu à la fin des années 60 en Italie, et après une deuxième génération d'ultra qui a commencé à arriver vers les années 80. Le mouvement français, il est ultra français, il est directement influencé ou directement inspiré du mouvement ultra italien, et c'est un mouvement qui est quand même caractérisé par une volonté d'apolitisme en fait. Donc ça quand même très, en France on est quand même très marqué par des tribunes. Alors moi je pense que c'est assez faux, et quand on gratte un peu on se rend vite compte qu'il y a des tribunes qui sont très nationalistes ou d'autres tribunes qui vont être plus marquées par l'antiracisme. On pense à Marseille, à Bordeaux, au Red Star. Et des tribunes plus vraiment nationalistes, comme ça peut être à Lyon, voilà. Sans rentrer dans les détails, sans tout lister. La revendication de tribunes non partisanes au niveau politique, c'est quand même ce qui a fondé, hein, c'est quand même ce qui fonde un petit peu la culture ultra en France, quoi. Issue du mouvement italien d'ailleurs, hein. Le mouvement italien, il était né dans la période un peu chaude de la fin des années 60 et les années 70, à l'époque de ce qu'on appelait les années de plomb, tout ce qui était le mai rampant, l'autonomie italienne et tout ça. Donc sans être très politisé, il y avait quand même l'influence des tribunes italiennes, il y avait de ce qui se passait à l'extérieur des stades, même si les groupes n'étaient pas forcément ultra politisés, même s'ils avaient des noms qui étaient parfois très, très marqués, comme les Fedaïn ou ce genre de choses, très marqués politiques, dans la première génération d'ultra. La deuxième génération d'ultra, elle est venue avec une volonté de beaucoup plus axer sur le développement de l'animation des tribunes, des chorégraphies, des tifos et tout ça, avec une volonté de mettre quand même la distance, de laisser la politique hors du stade. Même si on remarque plein de fois que d'une certaine manière, les groupes ultra, dans le combat qu'ils mènent en fait pour les libertés, pour leurs droits ou quoi que ce soit, sont sur des positions finalement, enfin ils font de la politique en fait d'une certaine manière. Si tu veux, Sébastien Louis, qui est celui qui est l'auteur un peu, l'historien qui a déjà le mieux travaillé, qui est celui de la référence sur la question des ultras en Italie, et qui maîtrise le mieux, on va dire, la sociologie des tribunes et ce que sont les tribunes en Italie, et aussi le mouvement ultra en France, hein, lui parle des ultras comme étant un peu les syndicalistes du football, quoi. C'est quelque part aussi une reconnaissance de leur rôle, moi j'appelle politique, à l'intérieur du football. Maintenant, c'est aussi un peu des lanceurs d'alerte, entre guillemets, sur la question des restrictions des libertés ou quoi que ce soit. Ça, on l'avait vu au moment où Édouard Philippe voulait mettre en place une interdiction de manifester et qu'il avait assumé que c'était directement inspiré des mesures qui frappent les ultras, des mesures d'interdiction de stade qui frappent les ultras, en fait. Et donc là-dessus, les ultras, ils ont une avance, en fait, de connaissance d'un point de vue de la répression. Ils alertent depuis des années, en fait, la société sur ce qui guette, en fait, ce qui menace de s'étendre, en fait, à l'extérieur des stades, et ce qui vivent un peu dans les stades, qui est un peu, encore une fois, c'est encore une expression, un concept un peu, mais qui est pas mal à reprendre, qu'on dit que c'est un peu le stade est un peu un laboratoire de la répression, parce que ce qui vise les ultras, en termes d'interdiction, en tout cas de privation et de mesures liberticides, c'est des mesures qui ont vocation, en tout cas que ce qu'a voulu faire Édouard Philippe au moment des Gilets jaunes, c'était, même si c'est pas passé finalement, on sent que ça a vocation à s'étendre, en fait.
Ça peut s'appliquer à d'autres milieux au final, si c'est en termes de répression, quoi.
Alors, ça peut être difficilement contrôlable d'interdire de manifestation des gens, en vérité. Mais le simple fait de le mettre en place, ouais, c'est pas quelque chose qui est impossible. Et les ultras, en fait, alertent depuis quand même des années sur ça, sur ce qu'ils vivent. Alors, d'abord avec les IDS qui ont été mises, les interdictions de stade qui ont été mises en place dans les années 90, dans la première loi dite anti-hooligan d'Alio Mari. Mais après, ces IDS, elles ont été donc ça passait par une condamnation en justice. C'est-à-dire, fallait passer, voilà, il y avait un procès et la peine pouvait être une interdiction de stade de tant d'années. Jusqu'à 5 ans, je crois. Enfin, j'en suis sûr. Et après, en 2006, sont arrivées une autre possibilité d'interdiction de stade, plus perverse encore, puisque c'est des interdictions de stade sans procès, en fait, qui sont délivrées par les préfets. Ça s'appelle les interdictions administratives de stade. Ça, c'est intervenu en 2006, à l'intérieur d'une loi, de la loi antiterroriste de 2006. C'est passé comme ça, il y a un article qui concernait les supporters, en fait, en disant qu'on peut. Un préfet peut décider d'interdire un supporter. Et après sont arrivées les sanctions collectives, donc avec la LOPCI, qui est une loi, je crois, c'est Sarkozy qui devait être à cette époque-là ministre de l'Intérieur, je pense. Qui,
En quelle
ou
année,
non,
tu dis?
président d'ailleurs, en
En quelle
2011.
année?
2011, c'était
2011,
président, ouais.
ouais.
C'est sous Sarkozy, la LOPCI 2. C'est une loi qui donne au préfet encore un nouveau droit, qui est celui d'interdire les supporters de déplacement. Donc en fait, on a un durcissement régulier et constant, en fait, de ce que de, du supportérisme, en fait, avec en plus de moins en moins de possibilités de contradiction, en fait. Parce que quand c'est des décisions préfectorales, il y a la possibilité de faire des recours administratifs, mais en fait, souvent le rendu du recours arrive beaucoup trop tard, en fait. Parce que ça, il y a quand même un lien qui n'est pas fait. Entre les mouvements sociaux et les ultras. Alors bon, voilà, parce qu'il s'est jamais fait, hein, je ne sais pas après qui peut faire ce pas-là pour permettre que ça se règle. Je pense que c'est quand même deux mondes qui ont vraiment peu de contacts, peu de liens. Même si ça a eu tendance un peu à s'effriter.
Assez frité.
Enfin, la cloison, à se décloisonner, on va dire ça plus exact, ces dernières années. Parce qu'aussi, il y a une partie du milieu militant qui commence aussi à s'intéresser un peu plus à la condition des supporters et à ce qui est subi par les supporters. Voilà, moi, je pense que c'est un des enjeux, un peu, un des enjeux peut-être de mobilisation future, quoi. Plus de liens entre le stade et l'extérieur, quoi. Même si ça ne correspond pas, encore une fois, ce que je reviens à ce que je disais un peu il n'y a pas longtemps, là, sur. Il y a une volonté quand même des ultras de se préserver, de beaucoup de groupes ultras de se préserver de la politique partisane, quoi.
J'ai l'impression que ça porte pas un peu en soi une logique de, bah, je sais pas, de renversement révolutionnaire, où c'est pas, ça a probablement pas vocation à générer ça, mais n'empêche que, est-ce que ce serait pas des initiatives qu'on voudrait voir advenir plus largement, ou si je pose la question différemment, toi, quel football tu voudrais voir advenir demain?
Bah, alors, pour répondre à la première partie de ce que tu dis, moi je pense que c'est réjouissant de voir des clubs qui sont gérés intégralement par leurs supporters gagner du terrain, en fait. Parce qu'en fait, c'est un encouragement aussi pour pas mal d'autres gens. En Espagne, quand les premiers clubs se sont créés, ils étaient moins nombreux, ça a donné de l'énergie à d'autres de se créer, ils essayent de se. Ça prend un peu la forme d'un mouvement, hein, en Espagne. vont du football populaire. Donc ça a un effet positif, en fait. Maintenant, la question, c'est que eux, ils se donnent pas l'objectif de renverser la société capitaliste. Eux, leur objectif, c'est de proposer un autre football. Globalement, ils y arrivent. Globalement, ils y arrivent bien, et c'est super réjouissant. Moi, si je devais parler que de mon objectif à moi, je reviens sur ce que j'ai dit un peu au début, c'est que pour moi, le football que je veux voir, ce sera le football d'une société qui sera libérée du capitalisme. En fait. Donc, je ne peux pas faire la dissocier le football de la société dans laquelle il vit. Et je ne peux pas répondre que juste en tant que passionné de football. Je suis aussi un prolétaire qui se fait exploiter au quotidien, en fait. C'est ça que j'ai envie de changer. Et c'est ça que j'ai envie de changer. Ça transformera aussi le football. Mais en attendant, je suis pas un naïf et je suis pas sur ma planète, en fait. Je vois aussi ce qui se passe et les gens ce qu'ils font, forcément, je le soutiens. Tous les gens qui recréent des clubs, les gens parce que c'est une énergie de ouf, c'est du bénévolat, c'est un engagement de malade. Et ça, en fait, si Dialectic Football, ça peut permettre à le mettre en avant, en fait, bien sûr qu'on s'en privera pas. Juste, c'est parce qu'on nous pose la question qu'on a aussi un constat lucide sur le fait qu'à un moment donné, si c'est pas relié à des mouvements sociaux, à des luttes, ou à des luttes, ou intégrées, ou en tout cas reliées, je sais pas, à des luttes directement contre le capitalisme, en fait, pour changer la société, pour la transformer dans son ensemble, ça a vocation à un moment donné à se heurter à un plafond de verre. Même si, pour l'instant, à l'heure actuelle, ce qu'ils font, c'est ce qu'il faut mettre en avant, comme le Calcio Popolare en Italie, comme ce que fait le MFC 1871 dans le 20e arrondissement à Paris, et comme ce que font des multitudes de petites structures qui sont beaucoup plus anonymes, beaucoup moins publiques, parce que leur rayonnement il est plus petit, ou ce que font certains médias. Je veux dire, là, on parle de dialectique football, mais il y a.
Dans le même tu sens. Penses à qui, par exemple, sur...
Si je devais en citer, j'aime bien ce que fait Furia Liga, par exemple, pour parler de la Liga. J'aime bien ce que font des médias comme Footballski pour parler du foot,
De l'Est,
de
quoi.
foot dans l'Europe de l'Est. Voilà, après, les autres, c'est des médias qui sont plus importants, comme les Cahiers du football. Voilà, il y a d'autres médias. Il y a des médias qui essaient de donner un autre regard, comme le Caviar, comme le Corner. Voilà.
T'as pas cité SoFoot.
Non, je cite pas SoFoot. SoFoot, c'est une grosse machine, tu sais.
Et du coup, pour conclure et dans l'immédiat, c'est quoi un peu tes projets?
Bah, tu vois, je vais reprendre un peu ce que je disais sur les clubs un peu dont l'objectif un peu immédiat c'est de se pérenniser, tu vois. Bah, le Dialectic Football, c'est pareil. Tu vois, on n'a pas beaucoup de moyens humains, financiers. Et donc, se pérenniser, durer, déjà en soi, c'est déjà un objectif, quoi. Et je pense que ça passera par la constitution d'un vrai collectif éditorial. Pour l'instant, on a du mal à le constituer, c'est pour ça qu'on est encore à l'état artisanal. Même si on aime ce qu'on fait et on est fier de ce qu'on fait, on a vraiment vocation à créer un collectif qui pourra porter un peu plus haut les couleurs de Dialectic Football. Ça, c'est sur l'aspect un peu média internet. Très vite, je pense que ça devrait déboucher aussi sur des propositions papier, en fait, pour aussi quitter un petit peu, enfin un petit peu se détacher de une dépendance un peu honnête, que ce soit aux réseaux sociaux ou tout simplement à Internet, quoi, être un peu plus dans la rue, quoi, un peu plus dans le concret, dans la vie quotidienne avec un format papier. C'est pas encore plus, mais ça fait partie des objectifs à court ou moyen terme. Et développer plus, oui, développer plus d'autres outils, d'autres supports. Moi, je trouve que l'outil radio tel que celui que tu proposes, ça peut être très intéressant sous la forme d'émissions, sous la forme de podcasts. Ça demande un certain talent, mais après, voilà, on l'a pas forcément. Mais pourquoi pas intégrer dans l'équipe des gens qui maîtrisent ces outils? On est super ouvert à tout ça. Et puis, développer aussi des ateliers un peu plus pour renforcer aussi le côté éducation populaire qu'on a envie de défendre et de développer, et pour permettre aussi aux gens d'être protagonistes du football et d'aujourd'hui, pour pouvoir aussi participer à cette transformation à laquelle on aspire, quoi, la transformation du football. Même si, voilà, on voudra jamais mentir aux gens sur le fait que tout ce qu'on peut proposer à l'intérieur du cadre du football, on aura toujours envie de le relier aux mouvements sociaux, en fait. On n'arrive pas à se détacher de cette idée que le fait qu'on pourra transformer le football qu'en transformant la société capitaliste, quoi.
Yes, ok, ben merci pour tout ça. Moi, je suis assez curieux de voir un peu quel genre de projet ça pourra aboutir dans la foulée. Mais en attendant, le site internet Dialectic Football et aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, c'est ça?
Tout à fait.
Yes, ben merci beaucoup à toi encore.
Mais merci à toi surtout, ouais.